Je m'appelle Anne Borlée. Je viens de Rochefort en Belgique. Je compte depuis 2009.
Je m'appelle Catherine Pierloz. Je viens de Bruxelles, en Belgique. Je compte depuis 13 ans.
Aujourd'hui, on se rencontre pour jaser de comptes. Pour lancer la discussion, on a apporté trois objets qui représentent les trois sujets dont on va vous parler.
Vous écoutez Vite ton sac, tête à tête autour du compte, un balado de la Maison des Arts de la Parole.
Bonjour Catherine.
Salut Anne.
Ça va?
Oui. Ravie de te retrouver ici. Hein. Tout ce chemin à faire là pour te voir, discuter avec toi. Mon Dieu. Comme si on ne l'avait pas déjà fait des milliers de fois. Nous discutons encore un peu, c'est bien.
Oui, on nous offre un plateau pour le faire. T'as amené des objets dans ta valise de Belgique.
Mais oui, j'ai essayé de ne pas prendre trop lourd, quoi. Et puis on nous demande un premier objet, là, tu sais, pour dire, pour nous, ce que ça représente le conte. Alors moi, j'ai été chercher dans la malle à jouer de mon petit garçon et j'ai trouvé ce casse-tête, ce genre de Tetris en trois dimensions, là, tu vois. T'as des blocs, tu dois les déplacer et puis quand tu les défais, t'es censé le reconstruire, que ça fasse un beau bloc. Et ça, c'est le conte pour moi. Parce que, alors je vais t'expliquer ce que j'ai en tête. Ça fait quand même déjà plus de 10 ans que je compte. Et aujourd'hui, je me sens parfois un peu comme une débutante. Comme si je commençais tout doucement à comprendre ce que ça pouvait signifier le conte. Alors quand je dis conte, moi là je vois conte merveilleux. Mmh. Je reste vraiment avec ce qu'on appelle ce qu'on récolte. Enfin, ce qu'on a à disposition d'abord, c'est-à-dire les contes qui existent. On les trouve dans les livres, mais en tout cas, c'est des contes qui ont roulé leur bosse, on va dire. Alors, par rapport à ça, quand j'étais conteuse débutante, j'étais là, je ne savais pas trop quoi faire. Il y avait toujours la volonté de... que ça reste pas trop près de l'original, parce que j'avais l'impression que tout le monde le savait, que ce serait ennuyant, parce que pour moi, c'était ennuyant de réentendre des histoires que je connaissais déjà, et je voyais pas comment y réinjecter nécessairement quelque chose d'un peu plus neuf pour susciter à nouveau l'intérêt, tout ça. Et donc, du coup, j'ai beaucoup transformé. Et j'ai parfois aussi inventé toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que quand je reviens aux contes et quand je les écoute raconter aussi, les contes qui ont déjà été bien façonnés par le temps, je me rends compte qu'ils ont une charge qui est très difficile à reproduire avec du neuf. Mmh. Et en même temps, je reste animée par l'envie de ne pas les re-raconter tels que je les lis. Et je me sens parfois donc, face à un conte comme face à un casse-tête. Comme si c'était une petite mécanique. Et à chaque conte, il y a une petite mécanique. Et il faut bricoler avec ça. Alors, il y a quelque chose, c'est comme si le conte contenait déjà quelque chose en lui qu'il faut arriver à transmettre, mais à transmettre aujourd'hui, avec mes possibilités à moi. Mais donc, ça me met face, quand je les travaille, les contes, hein, ça me met face à une attitude comme ça, où j'essaie de comprendre. Mais c'est pas comprendre, je vais pas lire des livres qui expliquent comment s'est fait le conte, mais j'essaie de voir, tiens, comment ça va s'imbriquer, ce motif, ce personnage, mais comment est-ce que je peux le raconter, tout ça, jusqu'à ce que ça redevienne comme ça un bloc bien, bien ficelé. Alors ça devient comme ça devient quelque chose qui a une force et qui palpite, et alors tu peux l'envoyer, et il y a quelque chose qui se passe. Mais ça, la mécanique, elle est différente pour chaque conte, je trouve. Et encore, chaque conte, j'imagine, au fur et à mesure que je vais avancer dans la vie, peut-être que ça sera de nouveau différent. Parce que ça doit de nouveau se structurer différemment pour être entendu à différents moments. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'amène cet objet, c'est ça que je veux dire. Et ça me plaît en fait. Je regarde les contes et je bricole avec eux comme un enfant en train de jouer.
Oui, comme un agencement. Moi, ça me fait penser à ça. À un agencement de matière. Quand tu parles l'ambiance du conte, les personnages, c'est aussi une recherche de ça quand tu parles de mécanique, un agencement qui fait qu'à un moment donné, il y a une évidence.
Oui. Parce qu'en prenant le conte, on le décortique quand même un peu. Enfin, moi, tu redéposes un petit peu tous les, Mm-hmm. Tu redéposes toutes ces composantes sous la table. Et puis, tu regardes un petit peu comment tu peux les remettre ensemble. Tu prends des choses qui viennent d'ailleurs, tu réinjectes. Mais il faut faire attention. Parfois, on sent, ah, j'ai réinjecté un truc là. C'est intéressant, c'est intelligent, je vois ce que je veux dire. Mais ça ne va pas avec le conte. Il refuse l'injection que je veux lui mettre. Et parfois, ça peut être très chouette. Tu reprends les mêmes éléments et tu en refais tout à fait une autre construction. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que le cœur du conte, il y a une espèce de noyau palpitant comme ça. Lui, il doit rester vivant. Sinon, bah, ça peut fonctionner. Ça va, tu racontes une histoire, les gens vont comprendre. C'est pas ça le problème. Mais est-ce que ça va être agissant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va te transpercer, t'étonner? Et c'est pour ça que j'aime revenir au conte ancien. Parce que enfin, c'est ce qu'on voit, hein, tu vois. Nous, on se connaît depuis longtemps. Il n'y a rien à faire, le temps, ça patine, mmh. C'est comme ça. Je reconnais comme ça maintenant près des contes, ceux qui sont anciens, ils ont cette patine qui permet qu'on les dérange. Tu vois, ça ne va pas les détruire, ils ne vont pas être là, rester comme ça, comme une espèce de grosse flaque sur le sol, non. Ils ne craignent pas ça. Parce qu'il y a une chose qui m'a toujours un peu énervée, c'est les gens qui disent « Oh, il faut respecter les contes, surtout ne rien toucher. » Ça, je ne comprends pas. Parce que les contes, ça va, ils sont... Ils vont pas...
Oui, après, tu dis ça, mais tu prends vraiment le temps d'un processus. C'est pas juste tu prends un conte et puis tu vas le modifier comme ça pour en faire passer un message ou quoi. C'est que quand tu parles de ça, moi, je vois la femme squelette, en fait, quand tu me racontes ça. Je vois les os. Tu vois comment tu réagences les os, puis comment, parce que les os sont réagencés, puis tu te mets dans une certaine... sensibilité qui fait que la chair peut réapparaître et puis cette histoire du cœur qui se remet à palpiter et puis du coup la créature peut apparaître. Ouais, enfin, c'est quand même un processus qui est lent, qui demande du temps de rêverie. Tu peux pas faire ça comme ça.
Oui, c'est ça.
Donc, peut-être que c'est ça aussi qui permet que tu peux, parce que tu as les mains dans le cambouis, je sais pas si c'est la bonne image, mais tu as les mains dans quelque chose qui fait que...
Oui, c'est ça. C'est plein de matières comme ça qu'il faut remettre ensemble pour que quelque chose devienne de nouveau un peu vivant, quoi. Oui, que ça devienne vivant. Parce que ça, c'est le piège. Quand on les a dans les livres, ils ont perdu leur vivance, là, comme ça.
Ben moi, tu vois, Catherine, tout ce que tu me racontes, ça me renvoie quand même aussi à mon objet, même si ce n'est pas du tout le même que le tien. Donc moi, j'ai amené ici, sur le plateau, un bol, enfin, en tout cas, une esquisse de bol. En terre glaise. J'aimais bien l'idée de prendre un objet brut, pas quelque chose de fini, pas quelque chose de bien propre. Et puis ce que j'aime bien, c'est aussi le fait que c'est de la glaise, que c'est de la terre, que c'est de l'argile, qui vient, on est quand même sur la terre. On est porté par cette terre, on marche dessus, et je trouve que souvent, on est dans de la réflexion, une réflexion fine, on est beaucoup dans l'intelligence qui est très importante. Mais parfois, je me dis, oui, mais en fait, on est aussi des créatures de la terre. Et j'aime bien ça, et ça, dans mon travail, c'est assez présent, cette espèce de contact, de rapport avec des choses plus charnelles, plus vivantes, plus réelles, en fait, d'une certaine manière. Et donc, déjà, rien que le fait de l'histoire de ce bol, déjà, j'adore, parce que mon idée n'était pas de venir avec de la terre glaise de Belgique. L'idée, je suis ici à Sherbrooke, il se passe quelque chose sur cette terre-ci, dans ce lieu-ci. J'ai déjà envie de partir de cette matière-ci. Alors, vu qu'on est au festival et que toutes nos journées sont immensément bien remplies, j'ai pas eu le temps d'aller chercher la terre glaise moi-même. J'ai demandé à Manon, qui est une bénévole qui nous accompagne beaucoup dans ce festival. Et ce matin, elle a pris sa pelle, elle était au bord de la rivière. Et pour nous, pour moi, elle m'a ramené de la terre glaise. Et puis moi, je me suis retrouvée là dans les locaux de la Maison des Arts de la Parole avec ma terre glaise brute. Puis j'ai pris de l'eau. Et puis rien que déjà ça, prendre le temps, puis on arrive parce que j'en ai mis plein sur mon pantalon et tout ça. Rien que ce truc d'être les mains dans le fait de façonner quelque chose. Déjà ça, c'est aussi un rapport que j'aime bien par rapport au travail du conte. Je sens que c'est plus juste pour moi de voir le conte comme quelque chose d'artisanal et de vivant. Mm. C'est aussi un processus vivant, le conte. C'est pas un texte, c'est pas un truc intelligent. Enfin, c'est intelligent, évidemment, le conte, mais c'est une autre sorte d'intelligence que j'ai beaucoup aimé rencontrer, d'ailleurs, parce que c'est comme si c'était une forme d'intelligence qui me manquait avant. C'est comme si je chantais qu'il y avait un truc qui était incomplet, là, autour de moi, quand j'étais enfant ou adolescente. Je trouvais qu'il manquait des bouts. au monde. Et puis quand le conte est arrivé, ben, j'ai fait ah, un peu comme ça me rassasiait de quelque chose qui me manquait.
Tu pourrais un peu préciser c'est quoi cette espèce de manque, ou en tout cas, qu'est-ce que c'est l'inverse du manque, enfin, c'est quoi ce qui est arrivé avec le conte?
Le monde du rêve, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en a fait un peu un marché. Tu vois, Disney, tout ça, c'est, on vend du rêve, comme si c'était des choses, tu vois, pour s'échapper, pour s'évader. Enfin, il y a des notions un peu étranges autour du truc du rêve. Alors qu'en fait, c'est ça qui m'interpelle, c'est de me, comme je disais, mais c'est comme si on pouvait être rationnel à des moments donnés dans la vie, et puis d'autres moments, on est irrationnel. Alors qu'en fait, pour moi, c'est des forces complémentaires, c'est des choses qui s'entrenourrissent, et qui rend le rationnel plus intelligent, plus complet. Et puis, d'un autre côté, c'est ce qui structure l'irrationnel. Enfin, je veux dire, c'est des forces complémentaires. Et donc, moi, le fait d'avoir eu l'impression d'avoir été séparée du monde du rêve, ou que c'est comme si c'était quelque chose d'extérieur, alors que là, comme je te dis, ben moi, les histoires ou les chantrades, etc., ils sont tout le temps entretissés dans ma vie. Et là, je me sens plus complète. Mmh. Et donc, tu vois, Catherine, là, pour le deuxième objet qui représente notre univers artistique, j'ai eu envie d'amener cette bobine de fil épais, vert, turquoise. En tant que conteuse, je me sens mais quasi en permanence reliée à la transmission que j'ai reçue. Je ne peux pas me dissocier d'en fait, de tout le processus de transmission dans lequel je suis. Et donc, j'ai toujours beaucoup de pensées pour les personnes que j'ai choisies pour ma transmission, qui sont le conteur Michel Hindenock et la conteuse Myriam Pélican, avec qui j'ai fait des ateliers, j'ai vécu plusieurs choses. Parce que ce n'est pas que dans l'atelier que je reçois des choses, c'est aussi dans toute leur manière d'appréhender le conte. C'est une transmission vraiment très globale. Ce n'est pas juste une technique qui est transmise, c'est... Quand je parlais du rêve dans la première question, ben c'est des choses... Michel, il en parle énormément. C'est lui qui m'a dit la première fois le rêve éveillé, des choses comme ça. Donc déjà, le fil de la transmission, pour moi, il est très précieux, très important. Et voilà, ça fait déjà quelques années que je compte. Et moi-même, je commence maintenant à donner des ateliers pour que ce fil, ben, il ne s'arrête pas, il ne s'interrompe pas, qu'on puisse continuer à faire vivre cet art et cette pratique. Après, le fil, c'est aussi tout comment on est relié entre nous. Je veux dire, le conte, moi je suis conteuse, mais je me sens très reliée aussi à une série de personnes importantes pour moi dans le métier. C'est toutes ces amitiés tout ce qui nous permettent tellement d'échanges, qui nous permettent d'approfondir, de réfléchir, de vivre une série d'expériences. Je pense aussi au groupe des Sista, qui est un projet très important pour moi, qui a été initié par Myriam, là-bas en Europe, et qui nous a permis de tisser des liens et de mener beaucoup de réflexions et de vivre beaucoup d'expériences qui ont été bousculantes et très, très enrichissantes. Et puis, le fil, là, qui est très important aussi pour moi, c'est comment on tisse comment ce fil... permet d'entretisser les mondes. Oui. C'est ça que je disais déjà par rapport au premier objet, c'est que j'ai l'impression que tout était comme ça, très dans des cases différentes. Et moi, ce qui me plaît dans le conte, c'est qu'on est là, on est dans du réel, je raconte une histoire, mais en fait, j'évoque de l'invisible, puisque je suis en train de faire exister un monde invisible. Donc déjà, il y a ça. Et puis aussi le fait que dans les contes merveilleux et dans beaucoup d'histoires ou de mythes, eh ben, on fait apparaître des forces invisibles. Et comment on peut tisser, moi j'aime bien être tisseuse, parce que j'aime bien l'artisanat, me sentir tisserande de tous ces mondes-là. Ce n'est pas des choses là, là et là, ben non, en fait, ça peut coexister ensemble. Et c'est même, ça crée même une vitalité, je trouve, d'entretisser ces mondes ensemble. Mmh. Ça donne du sens pour moi, enfin, je veux dire... Sinon, à quoi ça sert d'être dans cette société qui me paraît un peu plate, là? Mais ça donne du...
Oui, et je trouve que c'est aussi une belle manière de... Je ne sais pas, de comprendre ce qui peut se passer quand on raconte. Mmh. On essaie de sentir qui est là devant nous et... Pff,
il faut essayer de tirer leur fil. Mmh. Je ne sais pas si ça te parle ça, mais en tout cas, moi...
Ça te fait penser à ça.
Oui, quand tu dis tisser des différents mondes entre eux, mais aussi au moment où on raconte avec les gens qui sont...
Oui, ah, mais c'est vrai, ouais. Tout à fait. Mmh. Tisser le lien avec le public, c'est hyper important. Mmh. C'est ça aussi la terre glaise de Sherbrooke, c'est qu'on est ici, mmh. avec ces personnes-là, dans cet instant-là. Et donc l'histoire, elle va se révéler autrement que si je la raconte ailleurs. Et c'est ce vivant-là qui rend, oui, l'histoire... Tout à fait. Et toi, Catherine, qu'est-ce que tu as pris ?
Alors moi, toi qui as un fil, moi j'ai choisi une faux. Moi j'ai pris des cartes du tarot. Alors d'abord j'ai pris les cartes du tarot parce que c'est une pratique qui m'est familière. J'aime bien faire des tirages de tarot, surtout pour mes amis. Et puis j'ai essayé il y a quelques années aussi de trouver des comptes, un pour chaque carte de tarot, parce que la question, toujours ces questionnements sur soi-même et tout ça, ça me parle. Et puis quand on regarde le tarot, c'est comme une grande roue de signification. Voilà, et les contes peuvent aider à plein de moments de la vie, ont des résonances différentes. Chaque carte a une résonance différente. Voilà, c'était une manière pour moi, s'il faut suivre un fil, c'était pour moi un fil que j'ai suivi pour récolter mes contes. Mmh. Aujourd'hui, je n'utilise plus cette dénomination, le tarot-conte. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai cherché mes histoires. Et alors, s'il fallait être plus précise pour définir mon univers du conte, j'en ai choisi une. J'ai choisi la 13. C'est celle qu'on dit sans nom. Donc c'est celle, tu vois, avec une... C'est le squelette avec la faux. Tu vois un sol très noir et tu vois des têtes et des membres coupés, notamment des têtes couronnées. Alors, je m'y reconnais, c'est-à-dire, si je pense à mon univers artistique, quelles histoires je choisis, comment j'aime les raconter. Je m'y reconnais parce que je sais qu'une des premières idées que se font les gens, c'est que ça va être un peu la même chose que ce qu'on ressent face à cette carte. Quand je fais des tirages de cartes, ah, on a celle-là, on a peur de quelque chose. Alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais elle inquiète un petit peu. Elle inquiète un petit peu parce qu'elle essaye d'être... Enfin, la carte est sans concession. J'essaye, autant que possible, de l'être aussi. C'est-à-dire de ne pas me laisser bercer par les illusions. Et considérer que les illusions ou ce qui fait discours ambiant ou ce qui nous aveugle, etc., sont des pièges pour justement ne pas accéder à ce que j'ai essayé d'expliquer à la première question, là, d'arriver au cœur des choses. Et je trouve que cette carte-là, elle n'arrête pas de nous rappeler Élagon. Et on enlève, et on enlève, et on enlève. Et à la fin, qu'est-ce qui reste ? C'est l'os. Et à ce moment-là, il ne reste plus rien. Et on arrive à une espèce de vérité nue. On enlève les couronnes, les membres, les attributs et tout ça. Et moi, j'aime bien. Enfin, c'est la même chose, un peu. C'est le déshabillage du conte. Qu'est-ce qui palpite au cœur, quoi ? Et comment est-ce qu'on peut le retrouver ? Après, il faut un peu le rhabiller, parce qu'il ne faut quand même pas être, pas être trop incisif tout le temps, quoi. Il faut un peu de rondeur et de douceur, ou simplement, faut pas que les gens se sentent tout de suite mis à l'écart des choses, quoi. Hein. Donc, c'est pour ça, je mets cette carte avec une petite attention. Je ne suis pas que dans cette carte, parce qu'elle elle a aussi une énergie parfois liée à la colère, mais une colère dévastatrice. Et je ne veux pas m'installer là-dedans, c'est un moment. Mais en tout cas, il est présent à chaque fois où j'ai envie de raconter une nouvelle histoire. Il y a quand même toujours quelque chose qui me situe contre. Ou en opposition à quelque chose, où je ne suis pas d'accord avec quelque chose, et il me faut un conte pour dire ça. Ouais. Alors, en riant, d'abord, j'ai dit, j'ai la faux, toi, t'as le fil. Moi, je ne veux pas dire que je ne suis pas intéressée par les liens qui sont tissés. Mais parfois, je trouve intéressant aussi de se défaire des liens. Parce que... il faut retrouver parfois de nouveau la vivacité, etc. Donc, je peux me défaire aussi de mes contes, je peux me défaire aussi de mes croyances, je peux revoir des contes et je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu raconter ça ? Je les envoie. Voilà. Ça m'est précieux parce que ça crée une dynamique. C'est jamais figé. C'est pas un avis déterminé une fois pour toutes.
C'est se défaire de certains liens. Mais c'est aussi pour pouvoir en créer des choisis.
Voilà.
Je parlais de transmission, tu vois, parfois on est attaché à des choses sans savoir pourquoi ou de manière non choisie. Et puis là, avec la faux, ça nous permet de de faire terre, terre vierge, et pouvoir choisir quel lien, quel fil on tend, vers qui, vers quoi,
ouais.
Peut-être.
Oui, oui, c'est ça.
C'est complémentaire.
Oui, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Bon, Anne.
Allons-y, Catherine.
Voilà, maintenant, on arrive aux troisième étape de notre grande discussion. Et on devait discuter d'un truc.
Un thème qu'on devait choisir ensemble.
Voilà. Et alors, ça va en étonner peut-être plus d'un. Mais nous avons choisi de parler du rire.
Oui, oui, Catherine.
Voilà. Et pour parler du rire, moi, j'ai pris... Bon, alors, parce que c'est... Voilà, j'ai pris un livre, hein. J'ai pris un livre qui s'appelle de Kundera, qui s'appelle La plaisanterie, mais j'aurais aussi pu prendre le livre du rire et de l'oubli. Enfin, j'ai pris Kundera parce que c'est un auteur que j'aime bien, et c'est un auteur qui décape. Et pour lui, le rire, c'est il dit, comme il a grandi, enfin, il a vécu à Prague, hein, sous le communisme, et il dit pendant la période de la terreur stalinienne, il savait reconnaître dans la rue des alliés à leur qualité de sourire. Et il dit que ce rire-là était vraiment salvateur par rapport à tout un contexte comme ça très pesant, et qu'il est terrorisé par un monde sans humour. Mmh. Alors, c'est particulier peut-être de lancer ça, alors que je ne pense pas que... C'est la première chose que les gens se disent en voyant mes histoires. Tiens, c'est très drôle. Non, c'est pas toujours très drôle. C'est même pas toujours ce qui est choisi. Mais c'est pour ça que ça m'intéressait d'en parler. Parce que c'est pas pour ça que je trouve pas que c'est important.
Oui, parce que quand on en a discuté toutes les deux, c'est vrai que ce qui m'est venu moi assez rapidement quand on a parlé du rire, on a parlé de l'humour. Et c'est vrai que moi, j'ai la première réaction que j'ai eue, c'est un peu épidermique, c'est celle de l'injonction qu'on peut avoir l'impression, en tout cas que moi, je peux avoir l'impression de recevoir du monde culturel. Et c'est une bonne chose, hein, le divertissement et l'humour, c'est très, très bien. Mais si c'est une injonction que j'ai l'impression de recevoir, alors là, ça me tétanise. Alors du coup, l'objet que j'ai amené pour rompre tout de suite le sort de la tétanie, attention, oui, j'ai osé amener dans ma valise de Belgique jusqu'au Québec un coussin péteur. Donc si je me sépare, je chasse cette espèce d'injonction et qu'en effet je me donne le droit d'aller dans des histoires qui en effet vont peut-être pas être drôles. Hein, moi, on a travaillé ensemble, enfin je fais un spectacle avec Baba Yaga et c'est là que Catherine a été mon regard extérieur. Ben, j'ai eu la sensation de plonger dans des univers obscurs, des choses, les forces de la nuit. Donc c'est vrai que c'est pas le truc le plus le plus drôle du monde. Mais même si aujourd'hui je trouve que avec Baba Yaga il y a quelque chose de l'ordre du délire, quelque chose de une joie comme ça, mais une joie profonde qui jaillit. Hein, un rire de la nuit des temps qui est pour moi un rire qui se coule les os, quoi. Et ça me plaît, ce rire-là. Qui n'est pas un rire convenu, ou même s'il a son rôle, hein, le rire pour se détendre, etc. Mais ce rire-là, là, je l'aime bien.
Oui, mais c'est ça. Il y a des rires comme ça qui de nouveau nous font voir un nouveau point de vue, autre chose. Et c'est des rires qui, tout coup, ouvrent quelque chose en nous. Et sans doute que, je ne sais pas, si tu as amené le coussin péteur, c'est un petit peu là, on s'assied sur on s'assied sur ce qui va fonctionner, qui va faire rire. Pourquoi ? Pour me rassurer, moi, en tant que conteuse, que le public est avec moi. Parce qu'il n'y a rien à faire. On est quand même toujours confronté à ça, à cette inquiétude. Mm-hmm. Quoi qu'on veuille bien dire, est-ce que j'intéresse quelqu'un ? Est-ce qu'ils sont avec moi ? Et le rire est un signal très clair pour ça.
Mm-hmm. Oui, oui. Et que c'est toujours perturbant qu'on a un long spectacle. Enfin, ça peut m'arriver dans certains de mes spectacles où c'est un long spectacle d'une heure. Le dernier projet que j'ai sur les procès de sorcières en Belgique, bah, évidemment, c'est très prenant. Et donc, on ne peut pas s'appuyer sur ce moment-là du rire. Mais il faut faire confiance à autre chose qui se passe.
Et de toute façon, c'est un petit peu insultant pour les gens de penser qu'ils sont capables de se mobiliser autour d'un certain rire.
Après, j'aime bien l'idée du coussin péteur, c'est quand on s'assoit, tu vois, sur les idées reçues, qu'on s'assoit sur la notoriété ou qu'on s'assoit sur des dogmes, etc. Ben voilà, le coussin péteur nous rappelle que
oui, mais c'est
faut
ça,
pas se prendre trop au sérieux.
Parce que parfois, ça peut vraiment être bien, même d'aller dans cet humour un petit peu, enfin, Moi, j'aime bien le mélange, comme ça, des genres. On peut imaginer quelque chose qui va très, comme ça, très profond et tout ça. Et puis, tout à coup, un bon gros rire. Mais il a une fonction. Il a une fonction dans le récit de le faire réexploser ou de diriger dans une autre direction. Et moi, ma grande question et interrogation, c'est mais comment on utilise ça? Comment on fait? Parce que je trouve de nouveau, comme on a tous des univers différents, on a aussi un univers du rire différent, chacun. Mmh.
Après, c'est... Moi, je vois le rire comme une... enfin, comme un jaillissement, comme une circulation de vie. Et que donc, c'est un peu... J'ai l'impression que quand je me suis en forme comme ça, qu'il y a quelque chose... C'est pas que mon propos est rigolo, en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui... Je sais pas, une énergie qui circule. Puis c'est un moment qui peut être cocasse, etc., dans l'histoire. Mais c'est surtout comme... Je le relie à la générosité. Il y a quelque chose de généreux qui se passe et de collectif. Et dans l'histoire, et je sais pas, je vois ça comme ça en tout cas, le rire.
Parce que c'est vrai que bon, c'est sans doute un peu des lieux communs quand on discute entre conteurs, mais on est quand même confronté à parfois ce malentendu qu'on est capable de, ben, je sais pas moi, dans une assemblée, tout à coup raconter la bonne blague ou raconter la bonne histoire, mais qui va faire rire et. Et c'est parfois déstabilisant, quoi. Mais en même temps, moi, dans mon expérience d'auditrice, qu'est-ce que j'aime, le spectacle où il y a ces rires qui me secouent, enfin, comme tu viens de dire. Donc, c'est un endroit, en fait, où je me dis, il ne faut pas mettre de frontières, quoi. Parce que c'est ça, hein, j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train de faire des catégories entre les choses, puis de les définir les unes par rapport aux autres, mais... c'est pour ça que j'ai choisi Kundera, parce que Kundera, il traverse tout ça en réouvrant tous les champs. Et alors, même pour aller plus loin que juste le rire, comment tu fais récit? Tu dois injecter de tout, parce que la vie, elle fait de tout. Moi, j'aime bien me demander, quand je suis conteuse, quelle conteuse je suis, me demander, mais quelle personne je suis quand je parle à quelqu'un? Et il faut s'observer, parler avec les gens. Comment on passe du rire? Où est-ce qu'on va chercher? Quand on se retrouve le soir à débriefer de nos soirées, on passe sans arrêt de plein de choses à plein de choses. Et l'idéal, ce serait d'arriver à rendre ce vivant-là quand on raconte une histoire, quoi. Mmh.
Ce sera le mot de la fin, Catherine.